s'il y a des sentiments qui viennent, c'est le bon. Et sinon, ben, ce n'est pas le bon. On va parler maintenant un peu de ces sentiments. Dans les grosses boîtes industrielles, il y a un budget pub qui peut faire des millions des fois. Parce que tu peux être le meilleur des produits, mais si tu n'as pas de pub, tu es inconnu. Pour la communication. Et on voit que ça marche. Quand on parle d'un produit, les gens achètent. Il y a un produit qui est peut-être sur lequel il y a la campagne de pub la plus grande, universelle, dans toutes les langues, dans tous les pays. Résultat nul. Quel produit c'est ? L'amour. On en parle partout. Dans la chanson, on ne parle que de ça. Les romans, essentiellement, les films. On peut dire même c'est le lavage de cerveau. Le petit enfant qui boit son biberon, il y a des motifs sur le biberon d'habitude. Quoi ? Rarement des pages de Gemara, très souvent des petits cœurs roses. Après, quand le gosse va grandir, c'est fini le biberon, il va commencer à manger avec la petite cuillère. Ça, comment on appelle ça ? Des fruits écrasés comme ça, d'accord ? Alors on lui met dans la bouche, la moitié rentre dans la bouche, la moitié dégouline. Alors, pour ne pas changer les habits à petit cœur rose chaque fois, on met un bavoir. Quel motif est-il sur les bavoirs ? D'habitude, il y a le montant, je pense que c'est pas tellement sympa, il y a Mickey. Vous remarquerez que très souvent, Mickey n'est pas tout seul. À côté de lui, il y a Minnie. Ils se tiennent par la main. Ils ont l'air très contents. Et des petits cœurs roses qui sautent autour d'eux. Et puis après, il grandit. Il commence à lire les romans. Pour les petits-enfants de 6-7 ans. Non, même moins. 5-6 ans. Les beaux romans auxquels les femmes pensent depuis de ce moment, elles rêvent de ce moment-là, du mariage et du fiançailles, depuis qu'elles ont lu ces romans. On a toute la collection. La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête, qu'est-ce qu'on a encore Blanche-Neige, etc. Elles en rêvent le jour où viendra le Khatan, Tagada, Tagada sur sa Porsche, d'accord. Il y a tous nos khatanim quand ils vont faire la demande à leur futur fiancé. Ça fait depuis l'âge de 3 ans que ta fiancée elle attend ce jour. Ne rate pas le coup. Fais le bien. D'accord ? Il faut qu'elle soit très mollo, qu'il y ait un peu de larmes, qu'elle soit touchée. Ça fait 20 ans qu'elle attend, 18 ans, 17 ans, qu'elle, des fois 40 ans, qu'elle attend ce moment. Donc il ne faut pas le rater. Etc. Après, partout, on nous parle de cela. Partout, il n'y a aucun argument de vente plus fort que ça. On te vend, je sais pas moi, des cacahuètes, alors tu verras lui et elle derrière, avec elle, les cheveux blonds comme ça en train de voler, et lui avec un grand sourire derrière, on mange des cacahuètes, d'accord ? Ou autour du même type. Sur le terrain, la cata. La cata. Alors, copain, copine, on sort ensemble, ça va. Mais après, quand on parle sérieux mariage, comme je dis l'autre jour, c'est pas. Un temps c'est 50-50, aujourd'hui c'est bien moins. Bien moins de couples qui réussissent. Et ça, quand on parle divorce, ceux qui restent mariés, mais très souvent, mais c'est la cata aussi. Combien de couples vivent-ils heureux ensemble ?
Pourcentage ?
Ouais. Minime. Très peu. Alors, beaucoup de raisons à cela, on va essayer de les analyser, je ne sais pas si on va tout faire aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a déjà un sujet numéro un qu'il faut bien analyser, celui de l'amour. Il est clair qu'on se marie par amour. Il est extrêmement rare de voir que quelqu'un va se marier de façon désintéressée. Du genre, je me baladais dans la rue, je t'ai vu, tu m'as fait tellement pitié, allez, je te marie. Ça n'arrive pas, ce genre de... c'est très rare. D'habitude, tu te maries par intérêt. Mon cours va être dur et méchant, mais il est vrai. Méthode avoir me dit d'abord on casse, après on construit. Personne ne se marie par amour vrai de sa conjointe ou la conjointe par rapport à son conjoint. On se marie par intérêt. J'ai des besoins affectifs, des besoins physiques, des besoins sociaux. Et je vais voir ma conjointe, ma candidate conjointe, je vais voir est-ce qu'elle correspond à mes besoins, est-ce qu'elle peut satisfaire mes besoins. Et je fais un vrai business plan. Je regarde maintenant, qu'est-ce que je dois investir? Je comprends que si je me marie, je ne peux pas commencer à faire tout ce que je veux. On se marie, ça nécessite des sacrifices, je suis d'accord. On sort plus avec les copains, on va dire où on sort, on dit où on va, on revient à quelle heure on revient, on peut pas faire ce qu'on veut, etc. Et on fait la belle-mère, bon. Package deal, mais il faut que ça soit intéressant. Alors je fais un business plan et je vois que par rapport aux sacrifices que je vois, aux investissements que je vais devoir faire, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'il y aura un retour des bénéfices qui valent le coup. Ce sera pas toujours rose, mais ça sera suffisamment rose pour que ça vaille le coup de souffrir les moments de souffrance. Grave erreur. L'affaire, elle est nulle. La crise, elle est très puissante. Le jour où ça va le mieux dans ce business, c'est un vrai business, le jour du mariage, à part la salle de mariage que tu as payée assez cher, mais au niveau de l'investissement profit énorme, t'es content, t'es heureux, on s'aime. Investissement, pas très bien, elle m'énerve pas, on s'entend à merveille. Et dès ce jour, c'est inéluctable. Les bénéfices baissent et les sacrifices, les investissements montent. Et au bout d'un moment, ça devient investissement énorme pour bénéfice nul. Qu'est-ce qu'on entend? Je fais tout pour mon mari, je reçois rien. Et lui, je fais tout pour ma femme, je reçois rien. Pourquoi? Parce que d'abord, on est gâté. Et recevoir, c'est normal. Depuis qu'on est petit, on a reçu. Tu étais un récepteur. On te doit tout. Tout est dû, on s'occupait de toi, on te doit tout. Maintenant, tu t'es dit, ok, on me doit tout, mais moi, je veux maintenant une personne qui sera une, qui va s'occuper de moi, vraiment, une femme à 15 métiers. Elle est femme, elle est mère, elle est copine, elle est psychologue, elle est repasseuse, cuisinière, tout ce que tu veux. Je vais être aux petits oignons. Donc tu t'attends à recevoir énormément. Tu es prêt à donner, mais ce que tu donnes, vu que tu n'es pas habitué à donner, on n'est pas habitué à notre génération à donner, ça t'a l'air énorme. En fait, c'est très très petit. Donc tu donnes peu. Et tu exiges beaucoup. L'autre côté aussi. Il va donner. Il est prêt à donner peu. Il exige beaucoup. Et là, il y a un déséquilibre. Bagarre. Chacun est insatisfait. Chacun a l'impression qu'il fait des sacrifices énormes et qu'il ne reçoit rien. Et ça, c'est dans 99% des cas comme ça que ça se passe. Comment remédier à cela? Mais c'est qu'à la base, on n'a rien compris c'est quoi l'amour. Commençons par la Torah. Que dit la Torah? La Torah dit Vavta l'eracha kamocha. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ordonnance de la part d'Hachem, d'aimer son prochain. Un ordre. C'est qui mon prochain? C'est tout le monde. Mais certainement celui qui m'est le plus proche. Donc ma femme. Je t'ordonne de l'aimer. Ben, pas besoin. Je ne suis pas marié avec elle parce que je la détestais. Je l'aime. Pourquoi Dieu m'ordonne-t-il de l'aimer vu que j'aime déjà naturellement? C'est pas normal. On n'ordonne qu'une chose qui n'est pas normale. Dieu ne m'autorise jamais de dormir, ni de manger, ni de boire, ni de me reposer, ni de jouer aux cartes. Je le fais naturellement. Il m'ordonne de ne pas dormir des fois, de ne pas manger des fois, de ne pas boire, d'accord? Tout ce que j'ai envie de faire naturellement, ça me dit non. Quand Dieu a décidé que ça sera ainsi. Donc, quand on ordonne une chose, ça veut dire que naturellement, je ne l'ai pas et que j'ai un effort à faire pour réaliser cette mitzvah. Or, je ne comprends pas. J'aime ma femme, donc pas besoin de m'ordonner de l'aimer. Donc, certainement, Dieu parle du cas où je n'aime pas ma femme. J'aime plus. J'ai essayé. Là, elle me... Je ne peux plus l'avoir. Et bien, la Torah qui me dit, tu l'aimeras. Oh. Manque de peau, je suis religieux. Pas le choix. Il faut l'aimer. Bon, alors je suis un bon juif religieux, je vais pratiquer la mitzvah de Dieu. Je vais me forcer à aimer ma femme. Comment je fais ça? Hein? Tu fais cadeau? Hein? En lui donnant.
Par intérêt, après c'est ce qu'on tue.
Par intérêt.
Au début je le fais pour acheter, après c'est
hein?
Au début je le fais pour acheter, après c'est
un bon, c'est pas complètement faux ce que vous dites. En tout cas, me force à l'aimer comme ça, chérie, je t'aime, il y a des doutes qu'on arrive à quelque chose. On commence à comprendre qu'on n'a pas compris. Si Dieu m'ordonne de l'aimer quand je l'aime, c'est inutile. Donc il m'ordonne quand je ne l'aime pas. Ça veut dire que maintenant, l'amour, ce n'est pas une chose qui vient comme ça. C'est juste une chose qui se construit. J'ai lu le contrat auparavant. J'ai dit qu'entre ta cinquième et huitième rencontre, tout coup, tac, le sentiment, il vient. J'ai rien construit. Alors, il y a deux sortes d'amour. Le premier amour, celui que chantent les goïms dans leurs chansons, c'est ce qu'on appelle la Torah « chen », c'est pas « ahava ». Et le mot en hébreu « ahava », c'est « amour ». Valeur numérique 1, « echad », d'accord. Valeur numérique 13, « echad », c'est 1. L'amour qui vient entre la 5e et 8e rencontre s'appelle « chen ». « Chen » vient du mot « chen » se traduit en français « charme » ou « grâce ». Ça vient de la racine en hébreu « hinnam ».« Hinnam » c'est quoi ?« Gratuit ». C'est gratuit. T'as rien fait pour. Tu es là, tout coup, ping, ça tombe dessus comme ça, coup de foudre. Elle t'allume, enfin, tu l'aimes. T'as un sentiment super puissant, c'est pas un rêve. Il est là. Tu l'aimes, elle t'aime, et c'est génial. Reine. Gratuit. Et tout ce qui est gratuit, comme ça vient, ça part. Et un beau jour, ça dure environ 2 ans, le reine. Un beau jour, tu te lèves, j'aime plus. Et comme ça, il y en a des centaines de milliers. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé leur amour sur le reine. Leur couple sur le reine, et c'est faux. Le reine, c'est quoi? Le vrai amour, il se construit. On ne peut pas mettre deux personnes depuis le début et dire « allez, construisez ». Il y a un temps, il y a un temps. Construction, ça prend du temps. Des fondations, après une brique, encore une brique. Au bout d'un moment, c'est construit, mais ça prend du temps. Alors comment on va les mettre ensemble alors qu'il n'y a pas d'amour? Alors Dieu a créé une sorte de colle artificielle, très puissante, ça s'appelle le chen. L'amour très beau, très, qu'on chante, que chante l'égoïme, d'accord, sans cesse, l'amour, 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 ok, c'est très beau, ça vient, un truc comme ça, donc c'est... sur des sentiments, on ne sait pas d'où ça vient, c'est très beau, très puissant, ça colle. Et les deux s'adorent, très bien, ça colle très bien. Mais c'est pourquoi qu'existe cette colle artificielle, pourquoi? En attendant, tu commences à construire le vrai amour. Et un beau jour, quand l'amour est construit, le temps qu'il fallait, on va dire 2 ans, le chen y part, reste le vrai amour. Si on l'a construit, si on n'a rien construit, mais un peu rien. Alors le vrai amour, c'est quoi? Prenons un exemple. Je vais à la menuiserie, je demande, je veux une planche qui fasse 1 mètre sur 2, quelques autres planches comme ça, je fais un dessin, je crée une table. J'ai passé 5 heures à construire une table. Tout content, j'ai un vernis, génial. On me dit, écoute, il y a la même table au magasin, même encore un peu plus bien, un peu meilleure que la tienne. T'es prêt à changer ? Oui ou non? Pourquoi pas? Elle est même meilleure que la tienne. Change. Pourquoi pas?
On n'a rien fait.
Hein?
On n'a rien fait pour.
Et alors? Pourquoi? Parce que si j'ai fait, que ça change?
On sera satisfait.
C'est un valeur sentimentale.
Sentimentale. Extraordinaire. Extraordinaire. J'ai investi 5 heures dans du bois et de la colle. J'ai créé une dépendance sentimentale à du bois et de la colle. Faut le faire. C'est pas mal. J'étais tankiste à l'armée. un tankiste, il passe 26 heures sur 24 sur son tank, en train de l'astiquer, le régler, le boulonner, etc. Tu passes ta vie à t'occuper de ton tank. C'est toute ta vie. Ben, quand on partait le week-end, on revenait dimanche, parce que dimanche, on venait à l'armée, on revenait disant, ah, plaisir de le revoir. C'est une masse d'acier de 60 tonnes qui sert à tuer. Ben, tu t'en occupais un certain temps, tu commences à créer une relation sentimentale à une masse d'acier de 60 tonnes qui sert à tuer. C'est idiot. Passe-moi le verre là-bas. Tu prends ce verre. Donc, ben, tu commences à t'en occuper. Tous les matins, Boker Tov, comment vas-tu? Une petite douche, tu l'asticotes, tu le laves. Après, tu sors, tu arrives à prendre l'air. Tu appelles le bureau, comment va le verre? C'est artificiel. Tu passes, tu investis dans ce verre. Au bout d'un mois, tu as une relation sentimentale à ce verre. Dieu dit, tu peux aimer ton verre, tu peux aimer ton tank, tu peux aimer ta table. Aime ta femme. Investis dans ta femme. Alors si j'investis afin de recevoir, j'investis pas dans ma femme, j'investis dans moi. C'est le business. Le but, c'est moi. Je vais essayer maintenant de créer chez moi, et on a cela en nous. On a une partie qui est animale, nefesh, je pense à elle-même. On a une partie neshama, qui ressemble à Dieu. Et Dieu, il donne pour donner, par amour. Par amour. C'est ça l'ordre de Dieu. Développe chez toi cette partie divine qui est en toi, pour donner à l'autre, pour l'autre. Est-ce un apprentissage? Est-ce difficile? Et c'est surtout apprendre à s'écraser. S'écraser.